aura des livres dans toutes les langues, de beaucoup d'endroits, et d'Europe et d'ailleurs, du Japon, ou de Nouvelle-Zélande, ou de Russie, des États-Unis.
Beaucoup de formats différents.
Beaucoup de formats différents, on a des très grands livres, des très petits livres, on a aussi des choses qu'on appelle des livres, mais qui sont au final des objets. Pas mal de livres qui ne sont pas reliés et qui donc se déplient, on a des livres qui ont des reliures cousues, on a des livres avec des spirales, on a des livres avec des gros clous, des écrous.
Jeunes, on a des livres coloriés,
des livres mous, des livres durs,
on a des livres écrasés par des roues de voiture, on a des livres qui se déroulent,
on a des livres sur papier calque,
on a des livres transparents,
avec des couvertures cartonnées,
des livres qui vont sous l'eau,
en forme de pellicule,
avec des photos mais il n'y a pas de photographie.
On a des sortes de posters aussi. Ah, on a des livres de photos,
sans photo.
Comme celui de Benoît Grimalt, qui s'appelle 16 photos que je n'ai pas prises.
Des livres très colorés, on a des livres noirs et blancs, on a des livres très tristes, avec des histoires très tristes, on a des livres très très joyeux, avec des histoires très joyeuses, on a des livres complètement abstraits. Complètement abstraits.
Des livres avec de la photo trouvée.
On a des livres moches.
On a des livres photocopiés, on a des livres
sexy.
Avec une impression incroyable. Ils sont tous intéressants.
Et oui, vous aurez l'occasion de pouvoir admirer certains de ces livres proposés par Julie et Guillaume que vous venez d'entendre en introduction. Ils exposent dans le cadre de la 14e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, organisé par l'association Colère du Présent. Ils sont tous deux les fondateurs de Zine of the Zone, collectif nantais qui s'est spécialisé dans la collecte de fanzines photographiques et qui présente certes un aspect original, mais surtout qui contourne les circuits institutionnels de l'édition et de la photographie. Ces œuvres underground attirent aujourd'hui de plus en plus l'intérêt de collectionneurs et de galeristes. Julie et Guillaume, parfois aidés de quelques potes qui viennent les soutenir et apporter leur aide, ont écumé différentes villes de France et d'Europe pendant plusieurs mois à la recherche de livres rares à caractère photographique dans le but de les exposer au public de manière originale. Ils organisent également de temps en temps, en complément de leurs expos, des concerts, des performances en lien avec le do-it-yourself, des ateliers ou encore des conférences. Depuis septembre 2014, cette bibliothèque nomade continue de se déplacer, principalement sur des festivals ou pour des expos et autres événements en France et à l'étranger. Et c'est ainsi qu'ils ont atterri à Arras pour cette 14e édition du Salon du Livre. Ils exposent dans le petit salon de l'Office culturel jusqu'au 2 mai et à l'Hôtel de Guigne le 30 avril. Ils rencontreront également le public dans le cadre des débats de l'Université populaire dans la grande salle de l'Office culturel demain, jeudi 30 avril à 11h30. Pour en savoir plus, entretien avec ces globetrotteurs collectionneurs et passionnés. Zone. Bonjour.
Bonjour.
Alors donc, vous êtes une bibliothèque mobile consacrée aux ouvrages indépendants relatifs à la photographie, aux livres photos auto-édités, photozines, fanzines, utilisant de la photo et magazines indépendants. Comment toute cette histoire a-t-elle commencé? Vous avez visité plus de 50 villes, hein, c'est ça, à travers l'Europe?
Plus que ça, oui, parce qu'on a organisé entre 80 et 90 expos depuis la création du projet, c'est-à-dire en janvier l'année dernière. Du coup, on a traversé 90 villes dans toute l'Europe.
Mais comment elle est venue cette idée? C'est une frustration de ne pas pouvoir justement avoir à disposition ce genre d'œuvre?
Je pense que ça participe un peu de ça, ouais, parce que c'est des livres, donc les livres qui sont dans la collection, c'est des livres qui existent en assez peu d'exemplaires et qui sont vendus un prix assez accessible, donc ils disparaissent assez rapidement, ce qui fait que nous on les voyait sur internet et finalement assez rarement en vrai. Et on a voulu créer une sorte d'archive ou de base de données où on pouvait continuer de faire vivre ces livres, les faire circuler aussi principalement, les rendre visibles. Et puis bah, nous, on pouvait les regarder aussi en tant qu'amateurs de livres indépendants de photos.
Ouais. Oui, on a remarqué qu'il y avait cette pratique-là alternative de faire des livres avec la photographie qui nous passionnait et qui était l'objet de nos études, et que ça se pratiquait un petit peu partout de manière plus ou moins confidentielle. Et nous, comme on avait aussi ce truc-là d'aimer voyager, rencontrer les gens, on est parti dans l'idée de monter un fonds pour que ces livres-là restent quelque part et puissent être vus par les autres faiseurs de livres à droite à gauche. Et c'était aussi un beau prétexte pour voyager, pour les rencontrer et aller les chercher sur place, quoi.
Plutôt que de la frustration, c'était quand même plutôt une dynamique positive à la base qui a poussé le projet à naître, en fait.
On précise hein, que les livres que vous exposez, on va dire, ne sont pas à vendre. Ils sont juste à consulter. Mais en même temps, vous êtes quand même les ambassadeurs de ces artistes.
On se met pas trop d'étiquettes comme ça, c'est pas le but. On fait voyager une collection qui grandit à chaque fois, et à chaque étape, on rencontre des nouvelles personnes, puisqu'on est toujours en contact avec une nouvelle organisation, qui sont toujours des choses complètement différentes. Là, c'est un festival. On s'est retrouvé avec des gens qui ont une activité, voilà, qui font des livres, ou des photographes qui organisent un salon, qui ont envie d'avoir ce genre de choses, ou un squat dans lequel gravitent pas mal de gens qui fabriquent aussi des fanzines. Donc nous, on rencontre des publics très différents.
Ouais, plutôt que des ambassadeurs, on est des passeurs. On n'est pas les prophètes du livre photo indépendant. On est plutôt un petit collectif nomade qui faisons les intermédiaires entre un public connaisseur ou non et des gens qui, dans leur coin, publient des livres qui suscite notre intérêt, du moins, et qu'on trouve digne d'intérêt. C'est pour ça qu'on veut les montrer.
Pour finir d'expliquer aussi bien et que ça soit bien compréhensible le truc qu'on fait depuis un an. Donc à chaque fois, on rencontre des nouvelles personnes, et le but, c'est aussi de rencontrer les gens sur place dans cette ville où on est à ce moment-là, les quelques jours où on est là, qui font des livres et qui viennent nous déposer dans la collection, qui viennent rajouter au fond leurs livres à eux. Et donc on repart avec 1, 2, 3, 30 livres de plus. Et donc on a un exemplaire au final de chacun de ces livres, donc pour nous il est assez rare, et puis on sait qu'au fur et à mesure du temps qui passe, ils vont disparaître parce qu'ils ne seront plus trouvables nulle part. Et donc c'est pour ça qu'on n'a rien à vendre, parce qu'on a cette collection qui compte pas mal de livres de toutes sortes, de tout horizon différent, et chaque livre est unique à sa place.
Ouais. Quand je disais ambassadeur, c'est peut-être un grand mot, mais en même temps, c'est aussi le fait que vous êtes en dehors du système commercial, et les artistes également qui font ces livres. Donc c'est aussi une sorte de vitrine pour eux de se faire connaître en même temps, comme ils sont en dehors du système. Comment ils voient ça de ce côté-là, les artistes ?
Ils le voient tous d'une manière différente. Déjà, ils ne se disent pas tous artistes. Il y a pas mal de personnes qui nous donnent des livres, qui se disent pas artistes, qui ont d'autres démarches, et je pense qu'ils le voient de manière différente. Soit ils sont contents de participer à une aventure et de se sentir proche comme nous des autres personnes qu'on a déjà ou qu'on va croiser, et donc de participer de ce truc là de faire partie de la collection. Et il y en a quelques-uns quand même qui le voient comme un réel moyen de diffuser, d'emmener là où eux-mêmes ne vont pas emmener leurs livres.
C'est assez drôle parce que dernièrement, sur la page Facebook du projet, je mettais les photos de la dernière expo qu'on a faite à Brest. Et il y a une personne qui a tagué sa copine, qui a dit « Tiens, c'est drôle, je reconnais ton livre sur cette photo. » Et cette personne-là a répondu « Bah oui, en fait, mon livre se met à voyager bien plus que moi. » Et c'est assez rigolo comme phénomène. Mais c'est vrai qu'en général, les gens sont plutôt enthousiastes de voir que leur livre voyage. C'est plutôt sur la base d'un échange, en fait. Les gens nous donnent un exemplaire et nous, en échange, on leur donne une forme de visibilité. Et ça fonctionne comme ça, c'est sans prétention. Pour nous, le fait d'avoir monté un projet non commercial, c'était justement dans la même esthétique que la manière dont on fait un fanzine, en fait. C'est une espèce de geste comme ça qui est spontané et qui n'attend rien en retour.
La chance qu'on a, c'est de découvrir des objets qui sont assez peu diffusés, plus qu'autrement, parce que on a commencé ce projet en essayant de décrypter un petit peu un milieu, un phénomène qui se développait et qui était assez simple à cerner et visible par certains événements, certains blogs, certains auteurs aussi et certains collectionneurs qui mettaient en avant certains livres, du coup. Et il y a des gens comme ça qui font des livres qui participent aussi de notre collection, pour certains en tout cas, qui savent très bien comment diffuser leurs objets, diffuser les photographes qu'ils ont envie de diffuser, tout en faisant les mêmes livres à très peu d'exemplaires, mais voilà, ils sont très vite visibles sur le petit réseau qui existe, notamment sur Internet. Et nous, on a cette chance, du coup, en allant voyager, de rencontrer d'autres livres et d'autres gens qui ont moins cette préoccupation-là. Et du coup, ils sont très très nombreux, ces gens-là, et nous, on en a rencontré quelques-uns, plus ou moins par hasard, et du coup, on a aussi ces livres-là dans la collection, et c'est ce qu'on voulait, et ça, c'est chouette.
Vous me disiez tout à l'heure plus de 80 villes visitées à travers l'Europe. Quel pays, évidemment, vous avez visité? Et j'ai envie de dire, quel meilleur souvenir vous avez de quel pays, même si je me doute bien, c'est un peu compliqué.
C'est une question qu'on nous pose assez souvent. On a fait toute l'Europe, à l'exception du Luxembourg, de l'Ukraine, de la Russie et de l'Albanie, et du Kosovo d'ailleurs aussi. Mais on a fait quand même globalement toute l'Europe. Et c'est dur de dire quel est le meilleur souvenir, parce que ça pourrait être le souvenir d'une ville visitée comme un souvenir de voyage. Ça pourrait aussi être le bon souvenir d'une expo qu'on a organisée où les gens se seraient mobilisés vraiment, où il y a eu quelque chose, où il y a eu vraiment des échanges. 60 expos en 6 mois dans 30 pays, c'est une multitude de souvenirs, et c'est vrai que c'est une réponse à laquelle c'est toujours un peu difficile de répondre.
Ouais, et qu'on nous pose tout le temps en même temps, parce qu'on a eu cette chance folle de traverser plein de pays super rapidement, des pays qu'on avait pour la plupart jamais vu, et comme a dit Julie, c'était moins un voyage qu'un tour qui allait très très vite, et du coup, la sensation et les découvertes qu'on faisait à chaque nouvelle étape, c'est-à-dire tous les 4 jours, étaient vachement liées et dépendantes de qui nous accueillait, comment on était accueilli, comment se déroulait l'exposition et son succès, entre guillemets, parce que le succès, ça voulait dire, des fois c'est parce qu'il y avait plein de gens et que c'était super chouette, des fois c'est parce que c'était la fête et qu'on s'éclatait à fond, des fois c'est parce qu'on faisait des rencontres très très intéressantes et qu'on sentait qu'on n'était pas passé là pour rien, et des fois c'est parce qu'on rencontrait plein d'éditeurs qui nous amenaient plein de livres nouveaux et on était super contents, et des fois on n'avait aucun livre mais on a eu un très bon événement parce que voilà, on a parlé avec des gens et on a senti qu'on leur faisait découvrir quelque chose et eux nous apprenaient comment ils vivaient ici, etc.
Je pense que les bons événements, ils se sont aussi beaucoup fondés sur l'effet de surprise, qu'on soit assez régulièrement surpris. Par exemple, quand on a atterri dans un village, une petite ville en Slovénie, qui est connue pour ses grottes, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une ancienne station-service qui a été transformée en petite maison skate park par un collectif de skateurs qui du coup organise tous les étés un festival avec pas mal de musique punk hardcore où tout le monde vient skater des quatre coins du monde, et pendant l'hiver il se passe pas grand chose, donc on a atterri là-bas à mi-février et on a amené de la collection de fanzines pour les quelques 15-20 skateurs qui étaient là dans le coin à ce moment-là, et on a passé la nuit à les entendre improviser des concerts de rock, skater dans tous les coins, fumer des cigares et cuisiner des quesadillas. C'était assez rigolo.
Nous sommes toujours en compagnie de Julie et Guillaume, fondateurs de Zine of the Zone, invités par l'association Colère du Présent dans le cadre de la 14e édition du Salon du Livre, d'expression populaire et de critique sociale d'Arras. Ils présentent une bibliothèque nomade à l'Office culturel et à l'Hôtel de Guine. Au travers de ces expos que vous faites un peu partout, vous découvrez également une culture. Et vous emmenez aussi des souvenirs avec vous.
C'est très bref, c'était très bref.
C'est bref, ouais. Mais en même temps, vous les avez, ces différentes cultures. C'est pour ça, au travers de tous les pays que vous visitez, est-ce qu'il y a un pays émergent justement dans ce genre d'œuvres, de livres photos, où ça se développe beaucoup plus?
C'est assez récent comme phénomène, quand on parle vraiment juste d'éditions indépendantes photographiques. Ça a 10, 15 ans peut-être, ouais. 10, 15 ans que ça apparaît de la sorte. Avant, il y avait des livres auto-édités avec des photos. Et en Europe, l'Europe qui est quand même pas très grande, les premiers pays où vraiment, du coup, ça s'est un peu, entre guillemets, institutionnalisé, dans lesquels il y a commencé à avoir notamment des foires dédiées à ce livre-là, c'est les pays de l'Europe très occidentale,
ouais,
les Pays-Bas, l'Angleterre, la France, l'Allemagne.
Et l'Espagne. On a beaucoup de livres espagnols dans la collection. Il y a beaucoup aussi de photobook clubs qui sont des rassemblements d'amateurs de livres photos qui se réunissent ponctuellement pour ramener leurs livres préférés sur un thème imposé ou pas et en discuter, étudier les maquettes, etc. Et ça, c'est un phénomène qui commence un petit peu à gagner l'Europe et même le monde. Il y en a, si je ne me trompe pas, en Malaisie. Oui, à Kuala Lumpur, il me semble qu'il y a un photobook club. Il y en a un qui est en train de se créer difficilement à Helsinki. Il y en a un qui vient de se créer à Łódź, en Pologne. Et puis vraiment, c'est quelque chose qui, en Espagne, est hyper présent. Il y en a plusieurs et c'est aussi des gens qui nous ont aidés, nous, quand on a fait des dates là-bas. Donc, ouais, il y a qui s'intéresse aussi pas mal aux livres indépendants. C'est vrai que ouais, c'est un truc qui est hyper occidental.
Après, c'est l'aperçu qu'on en a, nous. Il est aussi limité par les hasards qui ont fait qu'on a rencontré telle et telle personne, et peut-être pas d'autres. Donc on a un aperçu qui est dessiné par la manière dont on a construit ce voyage. Je crois qu'en Pologne, c'est peut-être le pays où j'ai plus eu l'impression qu'il y avait ça de manière très très fraîche, très très nouvelle, et un peu en surfant sur les choses plus à l'ouest de l'Europe qui étaient déjà bien installées et qu'il fallait construire en Pologne. Et c'est là où on a rencontré des gens qui étaient plus investis, enfin, de manière plus évidente en tout cas, je pense.
Ouais, qui surfaient sur cette influence-là en apportant des nouveaux éléments assez intéressants. Ouais.
Toute génération confondue ?
Plutôt jeune génération, plutôt étudiants issus d'écoles de photo, écoles de beaux-arts.
Ouais.
Ouais, quand même.
Et c'est plus eux qui véhiculent le côté cool du livre photo avec le côté artistique aussi, genre à un endroit où vraiment on va pouvoir s'éclater et créer des choses. Et puis il y a d'autres endroits, d'autres générations où c'est plus l'occasion de montrer un travail qui est resté enfoui. Mais c'est vrai, ça je pense que c'est vraiment lié aux gens qu'on a rencontrés.
Après il y a aussi un phénomène à part entière qui est que le fanzine photo, si maintenant on décontextualise un peu des fanzines purement photos qui montrent des boulots photos, dans le fanzine photo il y a aussi toute une branche qui retrace un travail par exemple de graffiti. Qui ne seront pas particulièrement des fanzines signées avec un nom et un prénom pour les questions de forcément d'illégalité, etc., mais qui seront par exemple des fanzines qui retracent toutes les pièces réalisées par un graffiteur ou ce genre de choses. Ces pièces qui ont peut-être le risque d'être effacées et qui du coup restent quelque part. Et il y a aussi pas mal de fanzines photos pour de skate en fait qui montrent des tricks que les gens ont pu faire avec leur skate, et c'est des pratiques adolescentes quelque part. Donc même si les gens qui les font ne sont plus des adolescents, c'est quand même encore des jeunes gens. Et je pense qu'en dehors de ces générations-là, des gens qui seraient peut-être un peu plus âgés et qui se tourneraient vers l'édition indépendante de photos, ce serait plus dans le photoreportage. Parce que la photo de reportage était liée à la presse qui connaît quand même un peu une économie difficile en ce moment. Et du coup, une manière maintenant de faire circuler des travaux de photo reportage ou documentaire, c'est aussi un peu par l'édition indépendante.
Pour organiser tous ces voyages, hein, vous voyagez dans un van,
ouais.
Qui est aussi une sorte, pas de musée, mais d'une expo vivante en quelque sorte. Comment vous organisez un peu tous ces voyages quand vous allez dans les pays ? Comment vous les choisissez ? C'est complètement à l'arrache ou alors vous organisez vraiment vos voyages à l'avance ?
Alors ça a vachement changé. En fait, la base du projet, elle n'avait aucune idée de son avenir. C'est ce voyage dont on parle en Europe, sur lequel à deux, du coup, on a vraiment travaillé pendant un an. Et on est parti d'un carnet d'adresses qui était encore assez épuré et sur lequel il fallait continuer à bosser pour dessiner un grand parcours partout en Europe. Et on est parti en sachant à peu près qui on allait rencontrer dans toutes les villes qu'on avait décidé de traverser.
Ça a été un travail vraiment d'une année pour organiser un tour de 6 mois. Ça a aussi été un travail de recherche de financement, donc c'était quelque part un petit peu obligé d'avoir une liste de lieux dans lesquels on savait qu'on allait installer l'exposition. Mais à partir du moment où on est rentré en France au retour de ce voyage, c'est-à-dire à l'été dernier, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu un bon réseau, un bon bouche à oreille, et suffisamment pour qu'on soit sollicité sur des festivals ou des foires, pas tellement des foires d'ailleurs, sur des festivals ou même dans des espaces d'art, à raison d'une à trois fois par mois dans une ville différente, que ce soit plutôt en France d'ailleurs, ou comme on l'a fait à Zurich ou à Amsterdam. Ça fait un an maintenant qu'on est en train de tourner de manière plus ponctuelle, plus cool aussi, dans une périphérie un peu restreinte qui ne se tend pas à l'Europe telle qu'on a pu le faire l'an dernier. Mais ouais, non, on tourne maintenant plutôt sur invitation ou alors dans des lieux qu'on a envie de soutenir, comme on a pu le faire là dernièrement à Rennes et à Brest. Ouais.
Il y a des pays, donc, vous me disiez tout à l'heure, vous n'avez pas été Ukraine, Russie, Albanie, entre autres. Est-ce qu'il y a justement des villes aussi qui vous ont fermé les portes ?
Non.
Il y a des villes pour lesquelles ça a été difficile de s'implanter. Mais c'était plus pour des raisons d'organisation, de logistique, etc. Il y a des villes où on a beau avoir envoyé des mails à différentes structures, on n'a reçu aucune réponse.
Voilà, on n'a pas trouvé d'interlocuteur, ouais. C'est arrivé. Mais je pense que c'est juste un hasard, c'était pas le bon moment. Et puis voilà, nous, on a dessiné un parcours dans toute l'Europe en se disant on va faire toutes les villes d'Europe et on va le faire au plus court. Et donc on a écrit aux gens pour leur dire on sera là entre telle date et c'était à 2 jours près.
Et autrement ça, vous êtes attendu aussi dans certaines villes via les réseaux sociaux. Vous avez un petit réseau déjà implanté ?
On a un gros réseau, je pense, en fait. C'est assez étonnant. Ben, je m'occupe assez régulièrement de la page Facebook et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir le nombre de personnes qui s'intéressent au projet, qui nous soutiennent. C'est complètement fou, en fait, d'être aux manettes de ce truc-là et de voir autant de personnes attentives à ce qui se passe, autant de personnes qui lisent ce qu'on poste et qui commentent et qui, il y a une effervescence quand même. Il y a des gens qui nous demandent, on n'est jamais passé à Lyon. Il y a pas mal de gens qui voudraient qu'on passe à Lyon. On reçoit des gens qui sont, eux, dans des petites villes et qui nous disent, mais votre projet est très bien, donc maintenant, comment est-ce que moi, je peux faire à mon échelle pour le faire venir ? C'est par exemple le cas de la date qu'on va faire à Nîmes dans 2 semaines. C'est une personne avec qui on est en contact depuis presque 1 an, qui est prof de photo et qui a dit, je voudrais que mes étudiants aient conscience de ce phénomène et comment vous faire venir à Nîmes. Et donc, c'est drôle, c'est plutôt enthousiasmant de voir qu'il y a des personnes comme ça qui sont derrière ce projet et qui le portent en même temps que nous, en fait.
Et est-ce que, à contrario, il y a des villes que vous vous interdisez d'aller ?
Non,
éventuellement,
au contraire. Non, on avait vraiment le souhait à la base de vouloir aller partout et dans toutes les villes et dans tous les milieux et dans toutes les organisations qui accepteraient ou qui nous inviteraient. Et c'est ça qui est important et c'est comme ça que nous on reste indépendants et que le fond il reste indépendant. Notre initiative et cette collection restent indépendantes parce qu'elle est rattachée à rien et elle passe par tout.
Non, on va pas se mettre d'interdit. Et puis je pense que historiquement le fanzine est justement quelque chose qui va à l'encontre des interdits.
Là, vous êtes ici à Arras. Qu'est-ce qu'on pourra y voir pendant combien de temps ?
Alors, on va d'abord créer une installation qui sera visible à l'hôtel de Guine le 30 avril et qui sera un peu la fête d'ouverture du festival. Donc, je pense que ça sera une petite installation en bois. Donc, précipitez-vous.
Et donc, vous organisez aussi votre expo d'une manière particulière parce que j'ai vu un peu sur le site internet et un peu de photos où il y avait les supports, en fait.
Ça change à chaque fois.
Voilà, donc ça change à chaque fois. Comment vous créez un peu tout ?
En plus, là, on doit occuper 2 lieux en même temps.
À partir du 1er mai, on est à l'Office culturel, dans le petit salon. Qui est une petite salle de l'Office culturel. Et là, on a aussi une plus grosse partie de la collection qui sera là, en fait. Disons que l'Hôtel de Guine, ça sera comme un amuse-bouche.
Si on parle un peu des œuvres qui seront un peu pour donner un peu l'envie aux gens d'aller voir, est-ce que vous avez sélectionné des choses ? Parce que j'imagine que ça doit être compliqué aussi de sélectionner.
En plus, c'est pas un truc qu'on aime faire parce qu'on accepte tous les livres qui contiennent de la photo, qui sont édités de manière indépendante. Donc on a plein de livres et puis on n'a jamais assez de place pour tous les montrer. Et puis de toute manière, vous aurez jamais assez de temps pour tous les voir. Du coup, on sélectionne ceux qui nous semblent les plus quoi d'ailleurs.
Les plus intéressants.
On n'est pas censé parler de ça parce qu'on ne devrait pas sélectionner.
D'ailleurs, il y a des bouquins que vous vous interdisez, peut-être qu'on vous a proposé, que vous avez dit non, on n'expose pas.
Ah non, si on dit non, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la collection. D'accord. Quelqu'un dit non, désolé, ça rentre pas dans... C'est pas l'intérêt du fond. Mais on dit jamais non, on l'exposera pas. On dit pas de...
C'est toujours un peu délicat parce qu'on nous donne des livres qui doivent être indépendants, donc qui doivent du coup appartenir à cette catégorie un peu trouble de l'édition indépendante. Mais un livre que par exemple un artiste aurait créé totalement avec une subvention, Est-ce que c'est indépendant, c'est toujours un peu délicat, du coup il y a des limites qu'on n'arrive pas encore vraiment nous à cerner spécialement quand on accepte les livres, mais bon voilà,
tu dis que c'est délicat et en même temps finalement on a rarement été dans le cas de figure. Enfin, face à cette délicatesse, finalement, ça s'est toujours fait un peu de soi-même. Les gens qui sont venus nous voir pour nous proposer des choses, c'est qu'ils avaient à peu près compris à quoi on s'intéressait, qu'ils savent un peu ce qu'ils font et que c'est pour ça qu'ils avaient envie que le livre fasse partie de la collection. Mmh. C'est rare qu'on ait dû vraiment analyser le truc et se dire « Bah non, là, en fait, c'est pas possible, quoi. »
Je vous rappelle que dans le cadre de la 14e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale organisé par l'association Colère du Présent, Julie et Guillaume du collectif Zine of the Zone rencontreront le public demain jeudi 30 avril à 11h30 dans la grande salle de l'Office culturel. Vous pourrez également vous rendre à l'hôtel de Guignes pour y voir l'une de leurs expos visibles uniquement demain. Et si vous la loupez, ou si vous en voulez encore, une deuxième expo vous attend dans le petit salon de l'Office culturel d'Arras jusqu'au 2 mai.
Jackson, this cat is something.